Des sécheresses à répétition, une instabilité chronique, des ralentissements économiques, et c'est tout un continent qui a faim. L'Afrique souffre depuis des décennies d'insécurité alimentaire. Après une période d'amélioration entre 2000 et 2013, la situation s'est considérablement aggravée. Presque tous les pays d'Afrique subissent le fardeau de la malnutrition. En 2020, selon les chiffres de l'ONU, un Africain sur cinq était sous-alimenté, principalement en Afrique centrale et de l'Est. Une situation qui a empiré avec la pandémie. Alors, comment éliminer la faim sur le continent ? Des initiatives existent-elles pour tenter de stabiliser la situation ? On en parle dans ce nouvel épisode de La Fabrique du Savoir, saison 2, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France de Poitiers. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde et je reçois trois invités pour approfondir ce sujet à l'occasion de l'université d'été de l'EMF dédiée à la Grande Muraille Verte, une université qui accueille une cinquantaine de chercheurs africains et européens à Poitiers. Alphonsine Ramdé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheure à l'Université de recherche en sciences de la santé et coordinatrice nationale du programme NutriGreen, lancé en 2021 pour 3 ans. Vous nous en parlerez. Jean-Daniel Cesaro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet SILAT, AgroParisTech, et docteur en géographie à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, et vous travaillez sur l'intégration agriculture-élevage. Et enfin, David Giron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, l'IRBI, de Tours, et vous travaillez sur l'écologie nutritionnelle des insectes. Bienvenue à tous les trois. Avant de commencer, peut-être un petit point de rhétorique, Jean-Daniel Cesaro, qu'appelle-t-on sécurité alimentaire ?
La sécurité alimentaire pourrait être définie, si vous voulez, sur des notions autour de l'accès à des aliments en quantité et en qualité. Aussi des aspects de production, d'avoir que les pays aient la capacité de produire suffisamment pour leur population, et aussi des aspects de qualité liés notamment à la sécurité nutritionnelle, parce qu'on parle effectivement de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Tout ceci doit être renforcé par un environnement dans lequel l'assainissement et les systèmes de santé, les pratiques de soins sont adéquats, et le tout qui permet de vivre ensemble dans une vie, de mener une vie active et saine.
David Giron, tous les pays d'Afrique ne sont pas tous concernés par l'insécurité alimentaire. Comment on fait la distinction ?
Non, effectivement, tout le monde n'est pas concerné, mais potentiellement à tout moment, en raison de conditions géopolitiques ou de modifications climatiques qui nous attendent, on peut avoir un basculement de toute ou une partie d'une population d'un pays. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions comme ça qui essayent d'anticiper en fait les enjeux de demain, parce qu'effectivement, il y a des enjeux concrets d'aujourd'hui, et on sait que les grandes crises environnementales que l'on commence déjà à subir, vont impacter très fortement cet accès à l'alimentation et l'approvisionnement des populations. Donc c'est ça aussi l'enjeu, c'est de l'anticipation.
Et comment on fait pour anticiper alors ?
Eh bien, c'est essayer de trouver des nouvelles solutions qui soient plus durables, qui puissent être développées et déployées dans tous les pays, en essayant malgré tout de pas trouver des fausses bonnes solutions qui répondent à un enjeu à un moment donné, mais qui, dans la durée, vont poser les mêmes problèmes que l'élevage intensif ou les choses comme ça, en fait. Donc, c'est ça un petit peu aussi l'enjeu.
Ça veut dire qu'on teste, par exemple, des plants pour voir jusqu'à quelle température ils pourraient résister. On teste l'élevage, Jean-Daniel Cesaro ?
Oui, sur les solutions durables, en fait, on a déjà plusieurs régimes sur la question de l'accès et de la production. Il faut d'abord travailler à renforcer les capacités des systèmes de production en Afrique à produire. On a des études qui montrent qu'on a des gaps de rendement assez importants et qui vont se renforcer à cause du changement climatique notamment. Donc là, il y a tout un investissement de fonds des États à réaliser pour accompagner les systèmes de production. Et à côté de ça, donc ça, c'est la partie, on va dire, durable, qui prend en compte justement les aspects d'environnement, de santé, à travers ce concept de santé unique, c'est le One Health. Et il y a aussi tout l'aspect, on va dire, d'urgence, donc qui a été noté pendant les conflits, donc avoir des chaînes d'approvisionnement qui permettent de répondre à l'instant, à pouvoir apporter aux populations en situation voilà d'insécurité l'aliment dont ils ont besoin. Donc ça nécessite aussi de travailler sur des accords entre pays où les marchés agricoles restent ouverts. On voit bien qu'avec la crise de l'Ukraine et la fermeture de certains pays sur l'huile de palme, enfin sur certains produits très stratégiques, on peut s'attendre à des répercussions assez fortes, notamment en Afrique.
Alphonsine Ramdé, c'est un véritable défi ça, de pouvoir agir autant aujourd'hui pour limiter l'insécurité alimentaire et pour pouvoir prévoir comment on pourra anticiper cette insécurité alimentaire dans plusieurs années.
Oui, on peut dire que des solutions sont possibles en Afrique. Et comme nous l'avons dit, et comme nous travaillons sur le projet NutriGreen, c'est de promouvoir la nutrition verte pour la région du Sahel, nous pensons que des solutions pourraient être dans les sources locales. Il faut repartir aux sources locales et encourager à la consommation de produits locaux, mener une éducation environnementale pour inciter les gens à consommer le local, à produire adopter une production adaptée à l'agroécologie. Ça veut dire adapter nos cultures maintenant au changement climatique, aux effets du changement climatique, pour changer comment faire maintenant pour quelle culture dans un contexte de changement climatique.
Ça veut dire revoir un peu les cultures, c'est-à-dire ne pas se baser que sur des cultures ancestrales, par exemple, ça fonctionne plus parce qu'avec 3 degrés de plus.
Oui, il faut revoir à tous les niveaux, au niveau de la production, au niveau de la consommation, au niveau de la transformation et tout. Toute une éducation environnementale sur tout.
David Giron, je vous vois réagir.
Oui, en fait, pour revenir sur la question de l'environnement aussi, ce que l'on voit en fait souvent, les crises, elles résultent d'une juxtaposition de plusieurs crises. Et donc, c'est une crise climatique juxtaposée à une crise géopolitique. Et en fait, c'est l'accumulation de différentes crises qui va ensuite générer des problématiques, notamment d'insécurité alimentaire. Et la question du local, c'est extrêmement important. Et la notion d'éducation aussi, parce qu'en fait, il faut vraiment sensibiliser les gens, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les fausses bonnes solutions. Si je pense, par exemple, une des solutions qui est un peu mis en avant actuellement, c'est produire des insectes pour l'alimentation. Donc ça, c'est un peu
votre domaine.
Un peu un objet d'étude, voilà. Mais on voit que à côté de ça, dans certaines zones, il y a une pression très forte sur les populations d'insectes naturels, parce que c'est pas une production industrielle, c'est vraiment un prélèvement dans la nature. Et donc, il faudrait pas que pour répondre à l'insécurité alimentaire, on introduit la disparition de certaines espèces qui jouent un rôle essentiel dans l'agriculture, par exemple. Et donc, en fait, en essayant de résoudre un problème, on en crée un nouveau. Donc après, voilà, c'est quelle méthode on met en place. Ce qui marche en Europe ne marche pas forcément dans une autre zone géographique. Et donc, voilà, s'inspirer de ce qui se fait localement, le faire évoluer pour partir peut-être d'une collecte locale dans la nature à des petites unités de production, voire à des très grosses unités de production avec des circuits courts. Et effectivement, je pense que la clé, c'est là des solutions locales pour des problèmes locaux.
Vous parliez, Alphonsine Ramdé, du programme NutriGreen que vous menez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
NutriGreen, c'est promouvoir la nutrition verte pour la région du Sahel. Alors, c'est comme je disais tout de suite, c'est encourager la population à consommer la nutrition, enfin, les produits locaux. Le projet permet aussi de mettre en place ce qu'on appelle des jardins nutritifs que la population a accès c'est aménager un espace pour s'aimer des espèces et où la population peut avoir accès à des poumons aux périodes de sécheresse, aux périodes difficiles de l'année. Ce sont les femmes qui travaillent dans les jardins nutritifs et qui les gèrent. La femme africaine rurale a la responsabilité de la nutrition alimentaire de sa maison. Donc les jardins nutritifs sont une solution, c'est une technique, ce sont des techniques de récupération des terres dégradées, mais aussi une contribution à une sécurité alimentaire et sanitaire. En même temps qu'elles et ces femmes en produisant ces espèces essaient de récupérer des terres dégradées, mais aussi c'est pour leur consommation nutritionnelle et des activités de revenus.
Donc des jardins nutritifs qui sont lancés à l'initiative donc de ce programme dans une région qui manque parfois d'eau, oui. Ça doit être compliqué.
Oui, mais Il faut dire que les jardins nutritifs, l'idée, c'est de mettre en terre des espèces qui résistent à la chaleur. Donc, les espèces sont choisies parce que c'est vrai qu'au début, il faut, à côté du jardin nutritif, un point d'eau pour aider les plantules à pousser. Mais une fois après, ce sont des espèces adaptées à la sécheresse. C'est ça l'intérêt. Et du projet NutriGreen, il faut que ça soit des espèces adaptées au changement climatique et qui n'ont pas forcément besoin d'eau pour pousser.
Ce projet NutriGreen, vous le disiez, a été imaginé par des chercheurs du monde entier, finalement, suédois, allemands, sénégalais, burkinabés. Oui. La sécurité alimentaire, ça veut dire que c'est quand même l'affaire de tous.
Oui.
Comment susciter l'intérêt des décideurs et permettre cette interdisciplinarité?
C'est pour cela que nous travaillons beaucoup à valoriser les plantes qui ont double et qui ont cette double casquette là, des plantes nutritives et des plantes en même temps thérapeutiques. C'est-à-dire qu'elles ont des valeurs nutritives et les mêmes plantes aussi ont des valeurs médicinales. C'est-à-dire elles sont nutritives soit par les fruits, les feuilles, la population en consomme. Les fruits, mais les mêmes plantes sont utilisées soit au niveau des racines, soit au niveau des lycoses de tronc ou des feuilles pour se soigner. Donc, il faut promouvoir cette catégorie de plantes-là aux vertus nutritives et thérapeutiques pour la sécurité alimentaire et sanitaire de la population. Maintenant, comme j'ai dit, la question de la sécurité alimentaire est à tous les niveaux, d'abord au niveau politique. Effectivement, déjà, les chefs d'État, les chefs de l'Union africaine et les chefs du gouvernement africain ont déclaré l'année 2022 comme l'année de la nutrition en Afrique. Mais des efforts restent beaucoup à faire parce que il faut que beaucoup de systèmes soient mis en place pour accélérer certaines actions.
Alors, qu'est-ce qui bloque, par exemple?
Bon, et au niveau des... Par exemple, il faut des subventions. Il faut des subventions pour soutenir les couches vulnérables, telles que les femmes et les enfants, et créer des emplois.
David Giron, sur cette interdisciplinarité, c'est important et ça fait partie de cette écologie de la santé?
Oui, c'est clé. Déjà dans les disciplines biologiques, il faut une collaboration entre, par exemple, des gens qui travaillent sur les végétaux, d'autres qui travaillent sur les insectes, sur les mammifères, etc. Parce qu'effectivement, tous les êtres vivants sont interconnectés et la modification d'un élément d'un écosystème va entraîner des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème. Et ensuite, il faut effectivement intégrer à la fois des données de recherche, mais travailler aussi avec les populations locales pour les mettre en pratique. Donc, il y a un aspect de transmission, d'éducation. On voit que ça touche ensuite à des questions sanitaires, sociales. Donc, il faut travailler avec des économistes, il faut travailler avec des anthropologues. Donc, aujourd'hui, les vrais programmes qui fonctionnent, ce sont vraiment ces programmes intégrés. C'est pas toujours évident, hein. On parle pas tous le même langage, on n'a pas tous les mêmes concepts, etc. Donc, il faut vraiment mettre en articulation toute cette sphère scientifique pour l'interfacer avec la société. Et puis, bien sûr, il y a toute la sphère des décideurs politiques et des financeurs. Donc c'est compliqué, mais on voit aussi que les programmes internationaux peuvent bénéficier finalement de ces dérèglements à l'échelle internationale, puisque aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un conflit est aux portes de l'Europe, que du coup, des problèmes d'approvisionnement, on l'a vu aussi pendant le coronavirus, que du coup, un dérèglement à un endroit de la planète va impacter tout le monde. Et c'est pas seulement loin, là-bas, au Sahel, mais que tout le monde est concerné. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience assez récente pour les populations occidentales où on est habitué à avoir la profusion d'aliments, etc. Alors, tout le monde n'a pas accès, hein, en Europe à l'alimentation de manière saine et durable. Hein. Faut pas se méprendre. Mais voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience assez brutale avec des maladies, des parasites qui arrivent sur nos territoires, avec des problèmes d'alimentation, de dérèglement des chaînes de production. Et ça, je pense que ça va... C'est un problème pour la société, mais c'est peut-être une prise de conscience nécessaire pour trouver ensemble des solutions.
Vous voulez dire que ça va pousser le côté local,
oui,
à être mis sur le devant de la scène?
Ça pousse le côté local, ça nécessite de repenser les choses. On était dans un prisme et puis on avançait. Et puis, donc, repenser les choses. Alors, on voit bien que les grandes intentions, juste après les confinements, par exemple, on se dit, tiens, ça va changer complètement la société. Bon, c'est pas du jour au lendemain que ça change. Hein. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'on se dit que des problèmes qu'on considérait des problèmes lointains peuvent nous toucher aujourd'hui. Et donc, on regarde ces problèmes-là avec un œil un peu différent maintenant.
Jean-Daniel Césarot, on vient de parler beaucoup des cultures. Vous, votre prisme, c'est l'élevage. Comment on fait cohabiter agriculture et élevage sur un continent où parfois les terres sont disponibles mais pas toujours exploitables? On a parlé, en tout cas, cette université d'été parle de la Grande Muraille Verte où on veut replanter des arbres. C'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi donc cet élevage qui prend de la place et qui prend des terres. Comment on mêle les deux?
Je pense que pour revenir un peu sur la question de ces dérèglements et les effets des dérèglements sur les politiques publiques et la prise en compte des questions, je pense qu'on a eu un effet d'alerte d'abord en 2008, parce qu'il y a eu quand même les émeutes de la faim qui ont été générées suite à la spéculation autour des denrées alimentaires. Au Sénégal, il y a eu des grands plans d'investissement, notamment sur la culture du riz, où ils ont mis en avant cette question de la souveraineté alimentaire qui est liée évidemment à des questions de sécurité. Et la Grande Muraille Verte a émergé aussi à cette époque-là. Pour le grand public, c'est vrai que c'est un projet qui est plutôt autour de la reforestation, qui maintenant, dans sa deuxième phase, avec l'accélérateur et le One Planet Summit et les annonces de la France, va sur une approche beaucoup plus intégrée, qui s'intéresse à l'agriculture notamment, et qui va au-delà maintenant, et on parle de restauration des terres dégradées, donc pour retrouver des valeurs économiques à ces terres qui ne sont plus exploitées, soit par changement climatique, soit par conflit. On pense notamment au cas du nord du Burkina Faso, où on a 1,7 million de personnes qui sont déplacées aujourd'hui. Et donc du coup, ce programme de la Grande Muraille Verte a souvent opposé, on va dire, à l'aspect conservation, à l'aspect élevage, parce que on avait l'objectif de remettre des arbres, et c'est vrai que bon, les troupeaux ont l'habitude de manger ce qui se trouve, donc les petites plantules, si on les protège pas, elles poussent pas. Et en même temps, il y a une vraie intégration à les trouver. C'est ce qu'on a présenté dans cette université, c'est que l'élevage pastoral vit de l'arbre. Et l'arbre est intimement lié à l'animal, c'est-à-dire que c'est dans son écosystème et il en a besoin pour supporter notamment les crises pastorales, ces moments où il n'y a plus de biomasse herbacée et qu'il faut quand même nourrir les troupeaux. Ce qu'on montre au CIRAD à travers un projet qui s'appelle CASEX sur le bilan carbone de l'élevage, c'est que cet élevage pastoral qui est très grand, en fait, a un bilan carbone neutre. Et donc, du coup, les émissions, en fait, la séquestration au niveau bilan... serait plus positif que des élevages, on va dire, plus intensifs. Donc, il faut pas opposer forcément agriculture et élevage, parce qu'il y a des relations assez intéressantes. Notamment, nous ne sommes pas humains capables de consommer des résidus de culture, c'est-à-dire des pailles, des sous-produits agricoles. Au Sénégal, on produit beaucoup de riz, donc on a beaucoup de son de riz. Ce son, on peut pas vraiment le consommer, nous, humains. Et donc, il est intégré dans les rations animales. Donc, on peut voir qu'il y a, pour un système durable en tout cas, une nécessité d'intégrer l'animal. Alors comment, à quel niveau, pour quel type de productivité, ça c'est des questions qui doivent être mises sur la table, mais on va dire il faut pas exclure l'animal d'emblée, parce qu'il a un rôle à jouer dans l'écosystème, l'animal domestique, aussi l'animal sauvage. Mais enfin, ces animaux-là ont un rôle à jouer dans l'écologie des systèmes agroécologiques de production. Et en tout cas, nous, c'est sur ça qu'on essaye de militer, parce qu'on voit que on pose la faute souvent sur l'élevage, alors qu'en fait, c'est une partie de la solution.
Et si on veut faire adhérer les populations aussi, il y a des populations pour qui l'élevage est ancré depuis des décennies aussi, et c'est très important. On ne peut pas du jour au lendemain leur demander d'arrêter ces élevages pour se mettre à cultiver la terre, alors que ce n'est pas
tout à fait
l'ADN.
Et je pense que l'agence panafricaine et les agences nationales ont beaucoup évolué sur ce point, parce que voilà, on constate qu'il est impossible de restaurer des terres si on n'a pas l'adhésion des populations qui vivent majoritairement des produits de l'élevage, enfin plus que des produits de l'élevage, qui vivent avec les animaux. Donc c'est justement ça, c'est-à-dire que bon, sur le terrain, on voit bien que la situation a quand même énormément évolué, où on a des éleveurs qui adhèrent au projet, qui viennent aux réunions publiques, dont les enfants participent aux activités de restauration. Et ça, c'est lié aussi à des évolutions dans les modes de gestion des ressources, notamment l'accès à la paille, l'accès aux produits forestiers non ligneux, au fait qu'il y ait du développement de jardins polyvalents. Enfin, c'était tout un aspect qu'on appelle une approche intégrée des territoires, où il faut voilà avoir ce besoin, en tout cas de réfléchir les programmes de restauration en tenant compte des besoins des populations, mais plus encore que ces populations soient des décideurs des activités.
La sécurité alimentaire, ça implique le fait donc de ne pas pouvoir se nourrir correctement ou pas assez, oui. Mais finalement, ça a des conséquences aussi plus large, c'est-à-dire des retards de croissance pour les enfants, ne pas réussir à poursuivre du coup sa scolarité, de pas être donc des adultes qui pourront travailler facilement puisqu'ils n'auront pas suivi leur scolarité. On est vraiment sur une approche globale, David Girand.
Oui, on est sur une approche globale et puis il faut vraiment intégrer toutes ces dimensions là. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour que effectivement, les acteurs soient aussi les décideurs. Et puis, surtout, je pense que la réponse à ces problèmes-là, elle ne peut pas être unique. Et souvent, on a tendance à présenter la lutte contre le réchauffement climatique, voitures électriques, etc. Donc, si on met de côté les problèmes sous-jacents auxquels on ne fait pas forcément référence, c'est un ensemble de solutions qu'il faut trouver. Donc effectivement, c'est de nouvelles formes de production agricole avec des plantes qui vont résister au réchauffement climatique, c'est peut-être produire des insectes pour manger. C'est un ensemble de solutions qu'il faut co-construire avec les gens et pas une solution unique. Et donc effectivement, ça nécessite d'avoir cette approche globale et intégrée.
Et donc concernant la production d'insectes qui est votre spécialité, à un moment, on le disait, c'est la nourriture de demain. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors, ça peut être un des éléments de la nourriture de demain. Ça ne va pas être la solution miracle, hein, bien évidemment. Et puis, il faut essayer de, à la fois, ne pas créer d'autres problèmes en identifiant cette solution. Je disais tout à l'heure, par exemple, de mettre une pression sur l'environnement supplémentaire qui va aller à l'encontre de la production agricole, par exemple. On peut, au contraire, utiliser des leviers différents. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un prélèvement dans la nature d'insectes, pourquoi ne pas prélever des insectes qui, eux-mêmes, sont ravageurs de cultures, plutôt que des insectes qui vont plutôt, par exemple, être pollinisateurs. Mmh. Et donc, ça veut dire, en agissant sur la consommation d'insectes, on va aussi réduire une pression sur la destruction des cultures. Mais bien évidemment, l'effet...
Ça paraît très simple, dit comme ça.
Après... l'aspect qu'on considère comme nuisible d'un organisme dans l'environnement, il est sous un prisme qui est le prisme humain et bien évidemment dans l'écosystème, il joue un rôle. Donc, souvent on dit par exemple, pourquoi on ne supprime pas tous les moustiques, ça résoudrait plein de problèmes. Oui, mais les moustiques, ils servent à la pollinisation, ils sont à la base de la chaîne alimentaire de plein d'autres organismes. Donc oui, c'est gênant pour nous, oui, ça transmet des maladies, mais ça joue un rôle dans l'écosystème, même les plus enquiquinants. Donc voilà, il faut faire attention. Et si on passe sur une production plus industrielle, il ne faut pas réitérer les problèmes de la culture intensive en disant, bah tiens, il y a des risques de maladie parce qu'on a beaucoup d'organismes dans un même environnement. Du coup, on va balancer des antibiotiques et résoudre le problème. Donc, en fait, il faut... Et là, on voit qu'il y a des luttes à faire puisqu'on n'apprend pas vraiment du passé. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a une solution magique et qu'il faut être vigilant à tous les à côté et tous les engrenages qui peuvent se déclencher et se transformer en fausse bonne solution.
D'où l'intérêt de l'interdisciplinarité.
Oui. D'où l'intérêt de l'interdisciplinarité, d'où l'intérêt de la recherche et d'où l'intérêt de l'éducation pour transmettre ces savoirs. Il ne s'agit pas de faire les recherches dans notre laboratoire et d'avoir trouvé la solution, mais ensuite il faut pouvoir la transmettre, la faire comprendre et puis qu'elle puisse s'implémenter sur le terrain. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai besoin, une vraie nécessité que le chercheur aussi sorte de son labo, communique et qu'il y ait ce dialogue. Alors on parle beaucoup de la science avec et pour la société, donc c'est co-construction des savoirs, ce qui est aussi une nouvelle forme un peu de faire de la recherche, et donc ça nécessite de se réinventer aussi en tant que chercheur.
Produire, c'est bien, c'est la base, donc on l'a dit, produire au niveau de l'agriculture, de l'élevage, des insectes, mais il faut aussi ensuite pouvoir stocker ces récoltes. Est-ce qu'on a un problème d'infrastructure, en l'occurrence? On parle de l'Afrique là, mais c'est le cas aussi dans plein d'autres pays. Mais une fois qu'on a produit, comment stocker? Comment bien stocker? Comment faire en sorte que les récoltes ne pourrissent pas dans un entrepôt qui serait trop humide ou autre? Est-ce que ça, c'est aussi un problème?
Il faut aider les populations à adopter de nouvelles stratégies. Ça veut dire de nouvelles stratégies de production, de conservation et de consommation. Tout est lié.
Ça nécessite beaucoup de moyens.
Oui, ça nécessite beaucoup de moyens. Il faut mettre ensemble les efforts.
Sur les infrastructures, de stockage, mais pas que, hein, c'est les infrastructures aussi de commercialisation, on va dire les chaînes de valeur en général.
Oui.
On a un enjeu en Afrique qui est immense, puisque l'Afrique produit et est capable de produire énormément, et bien plus que ses besoins. D'ailleurs, elle exporte aussi énormément de produits. Mais pour les consommations locales, on fait face à des, enfin les producteurs font face à des défis, voilà, justement aux infrastructures qui sont disponibles sur les territoires. Alors les pays doivent investir. Et ils le font. Je prends le cas, par exemple, de la filière laitière, qui est une filière où on a besoin de chaînes de froid. Sur la sécurité sanitaire des aliments, sur le lait, on a des grosses productions au Sahel de lait, qui sont consommées traditionnellement en huile, en beurre, mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'en ville. Et donc, les États sahéliens se retrouvent paradoxalement avec une très grosse quantité de lait et en même temps à importer énormément de poudre. Et ça, c'est un défi d'infrastructure, d'investissement en infrastructure. On voit que des entreprises arrivent, s'ils ont les bons moyens et arrivent à développer leurs bonnes infrastructures, à multiplier substantiellement la production commercialisée dans les chaînes de valeur, on va dire, formel. On a le cas au nord du Sénégal, une laiterie qui s'appelle la laiterie du Berger, qui est passée d'une collecte, on va dire, de 500 tonnes en 2017 à plus de 4000 tonnes parce que elle a mis en place, bon, déjà, elle a fait un choix sur le prix d'achat en local, mais aussi elle a mis en place des infrastructures qui permettent justement de faire venir le produit jusqu'à une station de transformation. Et donc, du coup, il y a des, sur l'oignon, sur le riz, sur le mil, sur le sorgho, enfin, sur les protéines végétales, il y a toute une palette d'infrastructures qu'il faut développer pour justement permettre à l'Afrique de produire en quantité, en qualité et d'abonder les marchés pour leur sécurité alimentaire.
On parlait tout à l'heure donc de l'élevage, on a parlé des insectes, vous avez parlé de cette laiterie. Est-ce qu'on n'est plus sur des initiatives très locales et individuel finalement pour permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire, ou est-ce qu'on peut envisager de très gros programmes comme la NutriGreen ou comme la Grande Muraille Verte, ou finalement est-ce que c'est l'alliance des deux qui va permettre de lutter contre l'insécurité?
C'est l'alliance des deux avec les politiques. Parce que ce qu'on voit là dans la crise ukrainienne, le président du Sénégal s'est déplacé en Russie pour justement discuter au nom de la présidence de l'Union africaine des commerces du blé. Et c'est vrai que pour répondre à une crise aussi rapide que la crise en Ukraine, il faut une réponse politique. De toute façon, c'est inexorable. Et puis après, il faut mettre en place les plans d'investissement et les plans de recherche, parce que effectivement, investissement et recherche vont de pair. Le fait que on puisse avoir des investisseurs du secteur privé dans les filières, ça c'est essentiel, surtout dans des économies dites libérales, d'avoir des investisseurs, des chefs d'entreprise qui investissent au Sahel. Donc il faut ramener aussi la paix pour investir au Sahel, parce que un investisseur, même un Malien ou qui a envie d'investir dans son pays, a besoin d'avoir pour sécuriser ses infrastructures, la paix. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et après, effectivement, il y a besoin des bailleurs. Les bailleurs ont toujours été là, hein. Banque mondiale, Fonds international de développement agricole. Ils ont toujours été présents et il faut qu'ils renforcent leur présence. Les annonces de Macron sur le One Planet Summit étaient quand même quelque chose d'assez important, parce que on n'avait jamais entendu des investissements aussi importants pour une grande muraille verte, par exemple. Et donc, du coup, ça nécessite aussi d'harmoniser, d'intégrer, de coordonner. Donc ça, c'est le travail de l'UNCCD, de coordonner un peu tous les investissements, parce que c'est assez massif quand même, comme plan sur la décennie à venir. Et puis de bien cibler, parce que effectivement, on a beaucoup d'argent qui sont là, il faut que ça arrive sur le terrain. Et nous, ce qu'on voit, c'est que on a voilà des fois des effets d'annonce au niveau international, et nous, chercheurs de terrain et acteurs de terrain, on voit pas forcément les réalisations. On en voit, mais voilà, il faut vraiment que cette coordination soit améliorée pour que les populations bénéficient de ces programmes majeurs.
Pour cette dernière question, est-ce qu'on peut rêver un jour de briser cette spirale de l'insécurité alimentaire en Afrique? C'est vraiment un continent qui est associé à cette problématique. Est-ce qu'un jour, on peut espérer que grâce à la recherche, grâce aux investissements, on pourra permettre aux Africains de tout pays de ne pas souffrir d'insécurité alimentaire, David Giron?
Non seulement je pense qu'on a le droit de rêver à cette solution-là, mais il faut surtout la souhaiter de tous nos voeux. et mettre en action, on a dit, tous les acteurs pour y parvenir. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est de se dire qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on le résume un peu à l'Afrique, mais demain, avec les crises environnementales, c'est toute la planète qui va être face à ces problématiques-là. Donc, il faut le souhaiter, il faut se donner les moyens, il faut s'appuyer, comme on l'a dit, sur les politiques, les bailleurs et les financements pour déployer, mais il faut aussi beaucoup, et on y croit beaucoup au niveau de l'écologie, écouter les populations locales, s'inspirer de ce qui se fait localement, parce que souvent les solutions, elles sont là, et ce qui manque, c'est leur déploiement à plus grande échelle. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi reconnecter les hommes avec la nature. On disait tout à l'heure que les gens se sentent impliqués, prendre conscience que les solutions, elles sont là, elles sont locales. Donc, l'éducation joue un rôle extrêmement important. Et puis voilà, s'inspirer de ce qui se fait là. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un savoir aussi qui disparaît avec les populations qui vivent de plus en plus dans les villes, qui sont déconnectées, qui voient effectivement que les nourritures arrivent peut-être pas jusqu'aux villes, mais il faut être sur le terrain de la production pour se rendre compte des problématiques et des solutions potentielles.
Je rebondis sur ma précédente question. Vous le disiez, aujourd'hui, l'insécurité alimentaire ne se limite plus à l'Afrique, ou en tout cas ne va pas se limiter qu'à l'Afrique. Est-ce que l'Afrique devient peut-être un espèce de laboratoire, c'est-à-dire que ça fait des années finalement que des chercheurs travaillent sur ce sujet de l'insécurité alimentaire. Est-ce qu'elle pourra, l'Afrique pourra donner des solutions aussi à d'autres pays qui aujourd'hui sont concernés alors qu'ils ne l'étaient pas du tout avant?
La Grande Muraille Verte et cet exemple-là, c'est effectivement un laboratoire à ciel ouvert sur une dimension géographique extrêmement importante, donc qui combine tous ces enjeux, hein, géopolitiques, écologiques, de sécurité alimentaire. Et donc, c'est aussi des éléments comme ça qui sont des démonstrateurs de ce que peut faire l'Afrique pour résoudre les problèmes auxquels elle doit faire face.
Et sur l'aspect laboratoire, je pense que il faut, si on sort du cadre de l'Afrique, la nouvelle innovation en recherche aujourd'hui, c'est de travailler sur des laboratoires vivants. C'est ce qu'on appelle les living labs.
Voilà.
Donc c'est une notion qui est en train de vraiment se développer un peu partout sur la planète, où le rôle du chercheur, en fait, nous on était un peu les chercheurs dans notre tour d'ivoire à regarder la planète et à faire nos papiers. Et bon, même si en recherche et développement, on était plus sur le terrain peut-être, mais d'avoir un rôle, de minimiser le rôle du chercheur pour donner plus de place dans la recherche aux citoyens, donc à travers ces notions de sciences citoyennes. Ça, c'est vraiment intéressant parce que on se retrouve vraiment dans des nouvelles formes d'interaction où nous-mêmes chercheurs devenons sujets de l'expérimentation. On réfléchit sur nos propres pratiques, sur nos propres modes de communication, et puis on laisse aussi maintenant la place dans ces laboratoires vivants à la co-construction de la décision. Ça veut dire que les expérimentations ne sont plus imposées. Les expérimentations sont décidées avec les populations. C'est-à-dire que les populations elles-mêmes disent, nous avons tel problème. On fait l'identification du problème. Ensuite, ils nous disent, on aimerait bien essayer ça. On dit comment vous voulez le faire, quels sont les moyens, quels sont les leviers. On teste l'expérimentation. Eux testent, on met les protocoles en place. On revient toujours dans ces laboratoires à co-analyser les résultats. Donc il y a tout un réapprentissage, je pense, du métier de chercheur dans la recherche au développement, ouais, qui est en train d'apparaître et qui est très stimulant et qui laisse beaucoup d'espoir.
Merci à tous les trois. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir participé. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de cette saison 2 de La Fabrique du Savoir sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt.